Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, pour l'instant, ça tient encore. Les studios américains ont définitivement déserté les salles de cinéma européennes. Tous les blockbusters sont décalés de 6 mois, quand ce n'est pas de 1 an. C'est le cas de Dune, James Bond ou Black Widow. Wonder Woman 1984 devrait arriver sur les écrans alors le 30 décembre, mais après déjà un report, eh bien, il pourrait arriver sur les écrans finalement un peu plus tard. Quant à Soul, le dernier Pixar, il est purement et simplement privé de ciné. Il passera directement sur Disney+ à la fin de l'année. Alors dans ces conditions, eh bien, il est bien plus facile pour les autres films d'apparaître sur nos écrans. Le cinéma actuel est donc majoritairement français et européen. Alors, on aurait bien aimé vous parler de Drunk ou Calamity, mais ça sera pour plus tard. On a un tout autre programme. Bonjour Guillaume, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour.
Et vous avez, alors toi Guillaume, tu as un film, la comédie de la semaine, française.
Oui, c'est ça, c'est 30 jours max de Tarek Boudali.
Et toi Manu, deux films.
Oui, dont un film d'animation qui s'appelle donc Chien pourri, la vie à Paris, destiné, on va dire, aux petits-enfants.
Oui, c'est bientôt les vacances.
C'est bientôt les vacances, oui. Et puis, une reprise, Assaut de John Carpenter.
Eh bien, ce film de John Carpenter nous donnera l'occasion de jouer un blind test bien autour de la filmographie du réalisateur américain. Et vous en êtes deux grands fans, donc ça devrait être facile pour vous. On espère, chers auditeurs, que vous aussi, eh bien, vous pourrez trouver ces titres. Eh bien, quant à moi, je vous parlerai d'un western kazakh d'Adil Khan Yerzhanov, Dark Dark Man. Mais on va commencer avec 30 jours max, après Babysitter, Alibi.com ou Nicky Larson, Philippe Lachaud et Tarek Boudali, à nouveau réunis. Mais cette fois-ci, alors, c'est Boudali qui réalise la comédie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Il vous reste très peu de temps à vivre.
Très peu de temps, c'est-à-dire
30 jours. Max. Bien. Ça nous fera 35 euros, s'il vous plaît.
Ça pourrait être l'une des promesses à notre gouvernement en ces temps de repli chez soi, mais non. 30 jours max, c'est pas la durée d'un reconfinement, mais c'est le nom du dernier film donc de Tarek Boudali. C'est bien sûr une comédie, hein, c'est la spécialité de ce membre de la bande à Fifi, hein, alias Philippe Lachaud. Et on n'a pas allé chercher bien loin pour d'ailleurs tomber sur un peu tous les comédiens qui la composent, hein, que ça soit dans des seconds rôles ou des simples mais tonitruantes apparitions. Alors, après « Épouse-moi mon pote », hein, donc un titre qui rappelle quand même les grandes années de Philippe Clerc ou de Claude Zédi, Boudali s'offre à nouveau, en plus de la réalisation, le rôle-titre de Ryan, un policier maladroit et gaffeur qui est la risée de son commissariat. Alors, à la suite d'un quiproquo avec un médecin véreux, hein, il se voit délivrer la pire des nouvelles. Il est un grand malade incurable qui n'a plus que 30 jours à vivre. 30 jours pour faire n'importe quoi, séduire la collègue dont il est éperdument amoureux, redorer son blason de gardien de l'ordre et arrêter un très dangereux criminel. Bon, en fait, hein, surtout faire n'importe quoi. Determination to conquer
all my ambitions despite all the conditions. Prenez vite, il y a une prise d'otage.
Laissez-moi faire, commissaire.
Lève ton arme.
Prends-toi.
Bon, là, on a passé cet extrait issu de la bande-annonce, mais c'est très visuel quand même.
Oui, mais oui, c'est bon. D'ailleurs, c'est même difficile de ne pas se dire bah, bienvenue dans le cinéma français qui a 30 ans de retard sur les divertissements anglo-saxons, hein, devant, bah, vous l'avez entendu, un énième film, hein, qui singe les codes, hein, usés de la comédie américaine. Alors oui, mais bon, mais si c'est pour la plupart du temps irritant, hein, bah, la faute à des auteurs qui méprisent, hein, le vrai cinéma populaire et qui en fait ne comprennent pas vraiment ce qu'ils sont en train d'émuler, bah, c'est pas vraiment le cas chez Boudali et la bande à Fifi à plus large échelle. Hein. Alors attention, on n'est pas pour autant en train de vous vendre, hein, le renouvellement de la comédie française, hein, qui verrait Cadmérat glégiser 6 pieds sous terre, hein, dans la fosse commune des intermittents du spectacle, hein, mais plutôt une génération qui a grandi avec des codes et qui se font plaisir à les réutiliser dans notre charmant pays. Car oui, même si on n'est jamais surpris, hein, par 30 jours max, ben on ne peut pas nier, si on connaît les films, hein, des Zaz, c'est-à-dire Jim Abrahams et les frères Zucker, le trio d'ailleurs Y a-t-il un pilote dans l'avion, Un flic pour sauver la reine ou encore Les deux Hot Shots, ou bien si vous connaissez aussi les films d'Adam Sandler, hein, comme Terminagolf ou Little Nicky, eh ben on y retrouve retrouve une partie de cet esprit festif qui n'a pas peur de pondre 15 gags à la minute. Donc pour 30 jours max, même si on peut remonter assez loin dans le registre des films ayant un compte à rebours comme moteur d'action pour le héros, je pense en particulier à Mort à l'arrivée, très célèbre. Ici, on cible le décompte comme pur concept. Le but étant non pas de vraiment suivre un récit dramatique riche construit en crescendo, mais de tirer le plus de gags des situations qui s'enchaînent comme des mini-scénettes. Bon, en gros, on gagne en rire immédiat ce qu'on perd en hilarité constante. Le point fort de la comédie de Tarek Boudali, c'est qu'elle est très physique. On ne s'ennuie pas un instant, et en cela, son réalisateur met tout en place pour qu'on se régale. Là aussi, l'imitation sincère mais scolaire rencontre vite ses limites, surtout lors du passage musical et dansé obligatoire dans ce genre de gaudriole. Donc l'idée est excellente, les comédiens sont investis, mais une vraie chorégraphie aurait permis de faire décoller l'argument de base vers de nouveaux horizons. En fait, le film a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Il pense consciencieusement à cocher toutes les cases du genre avec délectation, mais ne va pas forcément jusqu'au bout de ses gags, qu'ils soient de situation ou purement visuels. Ce petit coup de frein maintient le spectateur dans un spectacle polissé, mais qui aurait mérité franchement plus de mordant. Alors quand on a un méchant qui s'appelle Le Rat et qui est joué par José Garcia, on espère plus quelque chose de l'ordre de sa composition dans Chez Gino, la très chouette comédie de gangster de Samuel Benchetrit, que quelque chose comme son personnage du boulet d'Alain Berberian. C'est raté, mais on a quand même un lot de consolation. On vous l'a dit, 30 jours max, ça, c'est un film de potes, de bande, et pourtant, parfois, il faut savoir sortir de sa bande pour faire à nouveau rire. Et c'est le cas de Marianne Chazelle, qu'on n'avait pas vu aussi en forme depuis les films de Jean-Marie Poiré. Exit, sa dernière participation catastrophique avec l'équipe du Splendide, qui n'a de Splendide plus que le nom, elle est au sein de la meilleure intrigue parallèle du film, qui voit la grand-mère du héros devenir petit à petit une star du net, qui cherche à faire le buzz en dépit de son allure ridicule. Là aussi, il manque probablement une conclusion vraiment gratinée à l'arc de son histoire, mais on se doute que la tendresse que dégage l'équipe pour ses personnages et l'esprit bon enfant ne permettrait pas forcément plus salace. Et on va dire tant mieux, car la bonne humeur est malgré tout là en fin de compte. Donc bon, c'est à la fois un film d'action, une comédie un peu romantique, un film loufoque et bruyant auquel Boudali nous convie, donc avec 30 jours max. Ça aurait pu aller franchement plus loin s'il y avait une rigueur d'écriture vraiment prise au sérieux, mais ça n'empêche pas au film d'être sympathique et d'assurer très honorablement son contrat de divertissement enfiévré. Bon, pour l'étape au-dessus, les productions Happy Madison d'Adam Sandler restent la valeur sûre du marché, comme l'unique Rien que pour vos cheveux, que je ne pourrais jamais assez recommander.
On les a déjà entendus, alors surtout Philippe Lachaud, mais même Boudali, qui sont venus présenter leurs précédents films. Alors, je pense notamment à Alibi.com et puis...
Épouse-moi mon pote.
Non, pas Épouse-moi mon pote.
Parce que ça, c'est vraiment, vraiment pas bon.
Babysitter.
Non, c'est Babysitter, ouais. Voilà. Donc, ils étaient venus et ils avaient effectivement bien raconté comment ils étaient fans des comédies américaines. Donc, effectivement, ils sont alors peut-être une des rares équipes, parce que c'est vraiment une équipe, en fait, scénariste, réalisateur, à vraiment réutiliser les codes de la comédie américaine en France, en tout cas. 30 jours max, c'est en salle depuis le 14 octobre, tout comme un film kazakh, eh oui.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Le Kazakhstan, riante république, 5 fois plus vaste que la France, mais 3 fois moins peuplée, un cinéma qui s'exporte peu en Occident, alors faute déjà de candidats, mais on peut saluer l'initiative du distributeur Arizona de proposer A Dark, Dark Man de Adil Khan Yerzhanov, qui n'est pas un parfait inconnu puisque son film La tendre indifférence du monde avait été sélectionné à Cannes en 2018 dans la section Un certain regard. Alors avec A Dark, Dark Man, nous sommes très vite plongés dans un paysage de steppe avec des montagnes au loin, un crime et des flics, des ingrédients de western dépouillés, car il y aura peu de protagonistes dans cette histoire, mais une bonne proportion de sales types. Un orphelin a été tué et ce n'est pas le premier. Et le flic qui intervient sur cette affaire, eh bien, n'a rien d'un flic, mais tout d'un ripoux. Alors, il ne prend pas la peine de faire des expertises puisqu'il sait qui a fait ça. Son rôle est de le couvrir. Il trouve donc un coupable idéal, un imbécile heureux qui fait des aveux contre une barre chocolatée. Alors, de manière assez brutale, on voit très vite que l'enquête à laquelle nous sommes conviés n'ira pas bien loin. Le réalisateur a donc prévu un autre menu. Il met dans les pattes de ce jeune flic une journaliste. Elle décide d'enquêter sur une malchance dont est victime la police du coin. Chaque fois qu'elle trouve un coupable au crime d'enfant, eh bien, l'accusé se suicide. Vraiment pas de chance. Alors plus la journaliste avance dans son enquête, plus le jeune flic corrompu jusqu'à la moelle eh bien, va se remettre en cause. L'occasion d'un patient dérèglement, alors là, façon western, car on ne retrouve pas le droit chemin sans en subir les conséquences.
Дело-то не полное.
Ал көрші ауылдың адамдары естісе не болады?
Ты Et au passage, vous faites connaissance avec la langue kazakh. Alors, tous les ingrédients de la farce noire ont été mis en place par le réalisateur kazakh, avec ce soupçon de poésie, car il laisse régulièrement de la place à l'imbécile heureux, toujours épris de jeu, et qui n'est pas le dernier à faire des blagues. Hein. Alors, vu comment la police et les mœurs politiques sont dépeintes, il est étonnant, je dirais, que le film n'ait pas été censuré dans ce pays qui est réputé justement pour avoir une police pratiquant violence et torture et une autorité politique qui n'est pas très volontariste pour changer les choses. Alors, fable autant philosophique, poétique et morale, A Dark Darkman a l'avantage de s'appuyer sur une mise en scène vraiment rigoureuse. Les personnages perdus on ne sait où paraissent hors du temps. Ils évoluent entre steppe et montagne dans un univers qui paraît alors trop grand pour eux. Alors, ils sont comme des marionnettes. Le réalisateur sait bien qu'il nous raconte une histoire incroyable à laquelle il ne nous demande pas d'accorder plus de vraisemblance qu'il ne faut. Mais c'est en exagérant, comme le titre l'indique, j'ai l'impression, à la répétition de Dark Darkman, qu'il touche son but et que la fable peut s'imposer. Le tout est glaçant, minimaliste, stylé, avec quelques coups d'éclat, comme ces jeux de reflets dans des vitres brisées ou intactes, ne laissant aucun doute sur la valeur des personnages et leur état. Alors même si ce film n'est pas beaucoup projeté dans les salles, je vous recommande d'aller le voir, Dark Darkman. Tu l'as vu, Manu ?
Non, mais par contre, j'avais vu La tendre indifférence du monde, qui est un film absolument magnifique, un film à la fois poétique et très, très cruel. Et puis, surtout, enfin, je trouve que c'est un cinéaste qui a un sens plastique du cadre qui est assez hallucinant, en fait.
Donc, A Dark Darkman de Adil Khan Yerzhanov est actuellement dans les salles. Tout comme une reprise, c'est un film de John Carpenter, c'est Tasso, et c'est toi, Manu, qui va nous en parler. Ça va nous donner l'occasion de jouer à un blind test.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama.
Parfaitement au point et incapable de nous tromper.
Bonjour. Bonjour, lieutenant, officier de police Starker, Ethan Bishop. Je me dirige vers Sonora avec trois prisonniers. Il y a près d'une demi-heure, l'un d'eux s'est brusquement senti mal. J'ai peur que ce soit sérieux.
Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, je n'en sais rien, mais je voudrais les mettre chez vous jusqu'à ce que j'aie trouvé un docteur.
Vous n'avez pas vu le panneau ? En fait, le commissariat n'est plus là. Il a été transféré.
Bon, mais vous êtes là. Hein ?
On va couper l'électricité et le téléphone dans peu de temps.
En quoi ça m'empêche de les mettre dans une de vos cellules ?
Écoutez, vous tournez à gauche sur le boulevard, vous faites 800 mètres...
Mais vous ne comprenez pas qu'on n'a pas le temps de discuter. Si jamais la maladie de mon prisonnier est contagieuse, nous risquons de tous l'attraper. Alors plus tôt je pourrai le mettre dans une cellule, et plus tôt je pourrai appeler un médecin.
Ok, amenez-les. Voilà.
Oui, chez John Carpenter, on n'a pas forcément le temps de discuter. Et les fans d'ailleurs reconnaîtront la patte du cinéaste à travers ces dialogues informatifs et très concrets qui nous immergent d'emblée au cœur du récit, même si ça se passe 10 minutes après le début. Alors, longtemps disponible dans une copie DVD lamentable, amputée d'une courte séquence clé, Asso était ressorti en Blu-ray il y a quelques années chez Metropolitan, dans une belle copie, restituant à merveille la pureté de la mise en scène de Carpenter. Alors, découvrir donc là le chef-d'œuvre, ce chef-d'œuvre, en salle, dans une copie restaurée, a de quoi réjouir les inconditionnels dont l'espoir qu'il tourne un nouveau long-métrage paraît aujourd'hui un peu chimérique. Je pense qu'il a 72 ans et puis c'est surtout tourné vers la musique, en fait, avec moyen aujourd'hui, enfin, il délivre des concerts réguliers un peu partout dans le monde. Alors, le style inimitable du cinéaste éclate dès les premières images, après l'amusant Dark Star, un film de 74, film de fin d'études, pastichant les classiques de la SF. Carpenter démontre, dès son deuxième long-métrage, une aptitude innée à construire une intrigue simple mais solide, à instaurer un climax topographique saisissant dans lequel évoluent des personnages archétypaux. Alors, les protagonistes de ce thriller urbain vont se retrouver assiégés à l'intérieur d'un commissariat par une menace extérieure, ancrée dans un réel déterminé. Alors, ici, il s'agit de minorités ethnique, mais échappant paradoxalement à toute forme de discours sociologique ou idéologique. Asso n'est ni un pamphlet gauchiste, ni un plaidoyer ouvertement sécuritaire. Les membres du gang de rue de Los Angeles n'appartiennent à aucun groupe social précis. Ils n'ont pas de revendications, ne s'expriment presque jamais. Alors ils semblent animés par une force surnaturelle, les poussant à un rituel de violence irrationnelle dans ce western moderne teinté de fantastique.
Comme ça, de loin, la rue paraît normale. On dirait qu'il ne s'est rien passé.
On dirait qu'il ne s'est rien passé. Ils ont froidement abattu 5 policiers, une secrétaire, un prisonnier. Nous, on en a descendu une douzaine. Et on dirait qu'il ne s'est rien passé.
Où sont les cadavres ?
Alors, si j'évoque le western, ce n'est pas un hasard. Un commissariat, ou plutôt le siège du shérif assiégé, un groupe d'individus hétéroclites vont s'unir pour affronter un ennemi commun. Ça ne vous rappelle rien ? Un film très connu des années 50. Alors, évidemment... on va penser au classique, hein, c'est Rio Bravo. Alors, plus qu'un remake, hein, un assaut est une variation postmoderne et ultra-violente du chef-d'œuvre de Howard Hawks, redynamisant sa thématique intemporelle, soit l'amitié improbable entre des représentants de la loi, un représentant de la loi surtout, et un repris de justice face à un problème commun. Alors, les barrières sautent quand il s'agit d'agir. L'exaltation de l'amitié virile, qui n'exclut pas d'ailleurs dans le film un personnage féminin important, est un des grands, on va dire, dada hawksiens, cinéaste fétiche de l'auteur de The Thing. Par ailleurs, rappelons que The Thing est le remake aussi d'un film produit et co-réalisé par Howard Hawks. D'ailleurs, le montage est signé John T. Chance, hein, nom du personnage incarné par John Wayne dans Rio Bravo. Alors évidemment, il s'agit d'un pseudo derrière lequel se cache bien sûr John Carpenter. Alors le grand vainqueur d'assaut n'est pas en fait son scénario linéaire et sans grande surprise, mais sa mise en scène épurée et virtuose. Alors âgé à peine de 28 ans, en 76, hein, Carpenter démontre qu'avec un budget étriqué et des acteurs inconnus, il est possible d'ambition formelle. Le sens du cadrage et du découpage se déploie dans un univers anxiogène mis en valeur par un scope magnifique. Alors chez Carpenter, le scope n'est nullement une afféterie d'esthète. Il utilise intelligemment l'espace et surtout les extrémités du cadre conférant à certains plans un aspect pictural marqué par l'hyperréalisme.
Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la raison de tout ça?
Ils sont en train d'effacer la moindre trace montrant qu'ils ont attaqué ce commissariat.
Bon, mais j'aimerais savoir, quelle est la raison de ce massacre?
Cet homme est arrivé il y a... Ah, je peux pas y croire. Il y a une demi-heure à peine.
Et tout ce bordel, les gars, pour un seul mec?
N'oubliez pas le drapeau. Ni le sang devant la porte.
Toujours aussi captivant, hein, 44 ans après sa réalisation, Assaut est ponctué de séquences chocs d'une redoutable efficacité qui avait d'ailleurs été censurée pour des raisons morales. Le meurtre de sang-froid plein champ d'une petite fille venue chercher une glace en est un exemple foudroyant. Alors la séquence construite sur un suspense orchestré de main de maître et d'une brutalité inouïe. Alors longtemps absent des copies 35, ce passage, hein, très hitchcockien finalement dans sa mise en place, possède toujours une puissance cinétique qui prouve que la violence transperce le spectateur si et seulement si elle est sublimée par une mise en scène digne de ce nom. Alors, véritable western des temps modernes, hein, on pense aussi à un autre western, Alamo, de John Wayne, ne faisant jamais l'apologie de la violence. Assaut a depuis influencé de nombreux films, hein, des Guerriers de la Nuit de Walter Hill à Siège de Paul Donovan. En France, on peut dire que Need Gap en est un rip-off plutôt réussi, tandis que Jean-François Richer en avait fait d'ailleurs un remake au début des années 2000, en 2004, il me semble, qui était assez balourd, il me semble-t-il.
Ouais, c'est douteux parce qu'il reprenait à l'envers en fait la raison pour laquelle les gens attaquent et du coup le message du film se retrouvait assez chamboulé.
Mmh. Oui, et puis on se retrouve quand même face à un film d'action très lambda où il n'y a plus du tout le sens de l'abstraction de Carpenter. Les méchants sont bien définis. La menace n'est plus une menace qui pourrait avoir une aura un peu fantastique.
Bah, je m'étais dispensé de le voir, le remake de Richer. Alors, cette ressortie qui n'est pas sans polémique, d'ailleurs, parce qu'il y a des histoires de droits, de copies, de je ne sais quoi. Voilà, donc, mais a priori, on devrait le voir quand même à nouveau dans les salles, le film Assaut. Eh bien, ce film nous donne l'occasion donc de jouer un blind test. 5 extraits de la filmographie de John Carpenter à écouter. Voici le premier extrait. C'est extrêmement facile, me semble-t-il.
J'ai un marché à vous proposer. Une possibilité de pardon pour tous les actes criminels que vous avez commis aux États-Unis. Il y a un accident. Il y a maintenant environ une heure, un petit avion s'est écrasé au centre de New York. Le président était à bord.
Président de quoi?
Je déteste qu'on se foute de moi. On vous y envoie. Trouvez le président, ramenez-le-moi ici dans les 24 heures et vous êtes un homme libre.
Dans les 24 heures, hein?
Je vous ai offert un marché.
Un marché de con.
Vous avez tout à y gagner.
Ben, je vais y réfléchir.
Pas le temps. Quelle est votre réponse?
Cherchez un nouveau président.
Ça a été trouvé, évidemment.
Alors oui, New York 97.
Oui, film de 1980 avec Kurt Russell et Lee Van Cleef qu'on entend. Et on y ajoute aussi Ernest Borgnine à un moment dans le film. Alors, film devenu culte grâce à la stature de son anti-héros, Snake Plissken. Ce long métrage nous plonge dans un univers dystopique dans lequel New York est métamorphosé. Et l'île de Manhattan est devenue une île prison dans laquelle le président des États-Unis est malheureusement tombé. Alors, hors la loi, Snake Plissken peut se racheter en sauvant le président. Il faut savoir que Kurt Russell reprendra le rôle de Snake Plissken dans Los Angeles 2013, que je n'ai pas vu pour ma part. Autant celui-ci m'avait beaucoup marqué, je n'ai pas vu la suite.
La fin est incroyable.
Bon.
Vraiment, vous voyez le film vraiment pour la fin.
Alors notez-le, deux films à voir hein, si vous ne les avez pas vus. Et puis sachez qu'il y a eu 1,27 million d'entrées en France. C'est un des gros cartons hein, des films de Carpenter. Deuxième extrait.
Je suis déprimé, je ne sais pas quoi faire.
Défonce-toi, ça vaut le coup.
Ah, tu dis ça, mais tu as eu une promotion.
Ton tour viendra, ne t'en fais pas.
L'Amérique change, on le sent bien. Notre pays est à l'aube d'une ère nouvelle, une ère de dynamisme. Ce vieux monde cynique est dépassé et nous n'en voulons plus. Nous avons foi en nos dirigeants et nous sommes optimistes quant à l'avenir. Nous leur faisons confiance car c'est le seul moyen de vivre en parfaite harmonie avec nous-mêmes et nos concitoyens. Il n'y a pas de limite.
Nous devons combattre pour la reconnaissance
de notre nation.
Ça a été trouvé.
Alors c'est Invasion Los Angeles, un film de 89.
Après New York, Los Angeles, sorti. Alors moi j'ai 88, je ne sais pas pourquoi.
Bon. Bon, parce qu'il est sorti en France en 89.
Oui,
il
d'accord.
Il me semble que c'est 89.
Toi c'est ta référence, mais je pense qu'il a été... ouais. Voilà, bon. Produit et sorti officiellement, mondialement en 88. Les envahisseurs sont là, ils gouvernent le monde grâce à la propagande, mais des lunettes spéciales permettent de décoder la réalité, c'est la matrice hein, en quelque sorte, et il est temps eh bien, de leur mettre la pâtée à ces envahisseurs. Alors le film alors, peut être compris comme une critique du capitalisme, c'est comme ça que vous l'avez entendu ou...
C'est totalement anti-Reagan. Hein.
C'est un brûlot anti-Reagan, voilà. On va dire républicain à l'époque.
Ouais. Ben, ça n'a pas attiré énormément de spectateurs en France, 177 000 à peu près. Un film qui en a attiré beaucoup plus, c'est celui-ci.
D'habitude, quand des voyous esquintent une bagnole, on a des photos.
Ah, mais pas si vite. Elle n'était pas aussi esquintée que ça.
Ben, c'est pas ce que dit Lee. En fait, elle était si secouée quand elle m'a donné les détails qu'elle s'est effondrée en larmes. Et j'ai compris que... Un des membres de ce raid a déféqué sur le tableau de bord. Je pensais que tu serais plus furieux que ça. Et je pensais que tu le signalerais à la police.
Ça se nettoie, la merde.
Moshi Welsh était aussi une petite merde qu'on a nettoyée.
J'en sais rien.
Dialogue entre un jeune conducteur et un policier, ça a été trouvé, évidemment.
C'est Christine.
Oui, film de 1983. On reste à peu près dans les années 81 pour l'instant. Adapté du roman homonyme de Stephen King, le film raconte l'histoire d'une vieille auto dotée de pouvoirs alors plutôt maléfiques qui prend petit à petit le contrôle du garçon qui l'a acheté et qui supprime tous ceux qui tentent de les séparer. C'est presque 1 million de spectateurs en France.
Alors, si je ne me trompe pas, avec Scarface, à l'époque, hein, 83-84, c'est le film qui comportait le plus le mot « fuck ».
Ah.
Et c'était voulu hein, de la part des concepteurs du film.
Ah, mais j'ai pas senti ça en regardant Christine. Ah bon ? Ah, très étonnant.
C'est très
autant Scarface, oui.
Je savais pour Scarface, parce qu'il avait atteint un record, je crois.
Oui, et puis il y a eu un montage qui a tourné longtemps, qui tourne longtemps encore, puisque c'est l'avantage d'Internet, il tourne encore ce montage de tous les fucks de Scarface. Petite digression, merci Guillaume, mais quatrième extrait quand même de ce blind test.
Ken est la pierre angulaire de cette société. Il représente plusieurs milliards. Nous avons déjà vendu les droits cinéma de son prochain roman. A des droits de publication et de traduction à 18 pays.
Ainsi mais que vous n'avez pas ce roman.
Son agent l'a eu en main, enfin au moins une partie.
Et vous pensez qu'après avoir lu quelques lignes de ce joyau de la littérature, il est sorti dans la rue en brandissant une hache? C'est très habile, c'est une bonne promotion pour Arkane, excellente publicité.
Ce n'est pas une combine publicitaire, vous étiez là. Les romans de Kane ont toujours eu un impact très fort sur des lecteurs psychologiquement fragiles.
Quel genre d'impact?
Désorientation, perte de mémoire, délire paranoïde fréquent.
Et les gens paient pour ce genre de choses? C'est ingénieux. Mettez-le dans le dossier de presse.
Attendez, nous avons besoin de vous.
Autre style, ça a été trouvé.
C'est L'Antre de la folie.
Eh oui, film de 1995, ça y est, on a franchi les années 90. S'inspirant de l'univers des auteurs Stephen King et Lovecraft, L'Antre de la folie est le dernier volet de la trilogie de l'Apocalypse de Carpenter. Alors on y suit un enquêteur d'assurance qui est chargé de retrouver Sutter Kane, un écrivain de romans d'épouvante à succès. Et dans cette quête, il est confronté à diverses réalités. Et le film commence, il est quand même dans une cellule capitonnée. Voilà. Antre de la folie, 182 000 entrées en France, c'est peu. Il y en avait beaucoup plus pour ce film.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection. Lorsque chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer, les absorber. Et ce faisant, d'en assumer totalement l'apparence physique. Ceci, par exemple, n'est pas un chien. C'est une nation. Nous avons tué la chose avant qu'elle ait pu finir. Finir quoi? Finir son imitation de nos chiens.
Alors après, le ceci n'est pas une pipe de Magritte, ceci n'est pas un chien de Carpenter, finalement.
Ceci est une chose, The Thing.
Oui, c'est The Thing, de 1982. En Antarctique, un groupe de chercheurs américains est confronté à la chose. C'est une forme de vie parasite extraterrestre qui assimile puis imite les autres organismes. Et donc, on y retrouve encore Kurt Russell.
Oui.
Et The Thing, c'est un des rares films. Alors à cette époque, John Carpenter n'a pas fait la musique parce qu'on aurait pu en parler longtemps, mais bon, il y a quand même les synthés tout le temps de John Carpenter.
C'est Ennio Morricone d'ailleurs qui a fait la musique, et alors que la musique pourrait ressembler comme ça à Carpenter. Et il y a même des gens qui, alors je ne sais pas si c'est vrai, qui déclarent qu'en fait c'est Carpenter qui l'aurait réalisé la musique.
Ce serait pas étonnant, hein, mais je sais que Morricone n'était pas content. À la base, il avait donné un score symphonique. Hein, comme il fait d'habitude, et Carpenter, à force de lui dire de retaper, Morricone lui aurait donné, d'après la légende, disant, t'as envie de faire un score synthétique avec 4 notes, et eh ben je te le donne, voilà. Et ça donnait ce score qui est iconique, quoi.
Bon, mais peut-être que John Carpenter, avant de donner son dernier souffle, pourra dire si c'est une légende ou pas, hein. En tout cas, ce film, il n'a pas eu de chance. Moi, c'est un des films, j'avoue que c'est mon film favori de John Carpenter. Il n'a pas eu de chance parce qu'il s'est retrouvé en concurrence avec E.T. l'extraterrestre, donc film très familial, et Blade Runner, quand même film prodigieux. Mais il a quand même réalisé 562 000 entrées en France. À noter qu'il y a, en 2011, un préquel de Thing, bon, qui raconte comment la chose est arrivée sur Terre.
C'est un remake, en réalité, hein.
Ouais, un remake déguisé, ouais. Oui, voilà. Bon, c'était pas foufou, mais plutôt efficace. Voilà ce qu'on peut en dire. Ainsi s'achève ce blind test autour de la filmographie de John Carpenter. On termine cette émission avec une idée pour emmener les enfants au cinéma et surtout les accompagner. Avec Chien pourri, la vie à Paris.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Il était une fois un chien qui sentait très fort. Et qui habitait les rues de Paris.
On dirait une vieille serpillière.
Une serpillière? Où ça, une serpillière?
Elle m'appelle Chien pourri.
T'es sérieux? Il est un peu foufou parfois, mais il est vraiment génial.
Sacré chien pourri.
Oui, l'extrait est assez symptomatique de l'atmosphère du film, enfin, du dessin animé. Alors, Chien pourri, hein, la vie à Paris, hein, raconte les aventures donc, d'un chien vivant à Paris. Candide est toujours enthousiaste, appelé Chien pourri, pour une raison simple, il pue, ce qui nous vaut des répliques et gags récurrents sur son odeur, qui devrait faire rire les très jeunes enfants. Alors, avec Chaplapla, un chat errant, alors on l'appelle Chaplapla parce qu'il est trouvé dans une pizza écrasée. Chien pourri arpente les rues de Paris pour de folles péripéties au gré d'un film d'animation découpé en 6 histoires. Alors qui donne parfois l'impression de regarder un programme télévisuel au cinéma. Alors rien d'étonnant, car à la base, Chien pourri est une série de petits livres édités par l'École des loisirs, créés par l'illustrateur Marc Boutavant et l'écrivain Colas Butman. Alors son succès engendra donc une adaptation animée sur France 3. Alors pour son passage sur le grand écran, le réalisateur David Durand s'est adjoint les services de Vincent Patard et Stéphane Aubier, les trublions derrière le délirant Panique au village. Alors ce qui apporte un parfum décalé et doudingue à ce dessin animé, alors clairement destiné aux enfants, mais une sorte de débilité assumée à base de jeux de mots pourris, le Monopoly devient le Monopourri, et de situations régressives peut finalement amuser les adultes adeptes d'humour consternant et malpoli. Alors en tout cas, les 4-8 ans risquent d'être aux anges devant ce chien pourri. Joli dessin animé, d'ailleurs au graphisme élégant, saboté un peu par un récit un peu sale où il est question de puces, de pizzas avariées, de moules qui puent, d'égouts, et puis j'en passe des meilleurs et des plus graves aussi.
En tout cas, ce film d'animation est dans les salles depuis le 7 octobre. À noter qu'il y a un autre film dont on espère vous parler la semaine prochaine, c'est Calamity, aussi un film d'animation. Voilà, il se trouve que, je le disais en ouverture de cette émission, les films américains n'étant plus là, eh bien, ça laisse de la place à beaucoup d'autres films.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Mais pour quelle raison?
Eh bien, voilà. On s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre.
Comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
On se retrouve la semaine prochaine, Guillaume, avec un film d'épouvante, très attendu.
Oui, Peninsula, c'est la suite du dernier train pour Busan, hein, donc de Sang Ho-yeon.
Et toi, Manu, c'est une ressortie encore.
Manhunter de Michael Mann, qui à l'époque n'avait pas marché du tout et qui, j'espère, aujourd'hui aura un peu plus de public.
Et ce sera l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie du réalisateur.